Lizzie présente Histoire du fils de Marie-Hélène Lafont, lu par Samuel Labarthe. Pour Jacques, pour Bernadette, in memoriam. Le langage est notre sol, notre chair. Je me représente toujours le chantier comme un creux, une ouverture du sol, et l'avancée d'un texte, sa progression, comme une marche en montagne. Valère Novarina, Entretien sur l'animal imaginaire, 2019. Jeudi 25 avril 1908. Les pieds nus d'Armand glissent sur le parquet. Il ne veut pas réveiller Paul qui dort encore et fait son petit bruit de lèvres dégoûtant, comme un chiot quand il tète. Il va attendre un peu, mais pas trop longtemps. Il ne faut pas que Paul se réveille. Il gâcherait la fête des retrouvailles. Paul gâche tout. Paul et lui sont nés le même jour, le 2 août 1903. Il sait, par sa mère et par sa tante, qu'il n'y avait jamais eu de jumeaux dans les deux familles avant eux. Il préférerait n'être pas jumeaux, ou l'être avec Georges, sans Paul. Il comprend que c'est impossible, parce que les choses sont comme elles sont. La tante Marguerite le dit souvent. Il tourne et retourne derrière ses dents cette phrase un peu bizarre qui glisse et lui échappe. Il s'applique un moment à penser aux phrases grises de la tante Marguerite et à son odeur, cendre froide et saucisson sec. Il réfléchit beaucoup aux odeurs et aux couleurs des gens, des choses, des pièces ou des moments. Et quand Antoinette vivait avec eux à Chanterelle, il la faisait rire avec ce qu'elle appelait ses folies. Et elle riait, elle riait. Elle pleurait aussi du coin des yeux à force de rire tellement. Maintenant, il ne peut plus dire ses folies à personne. Georges sent la confiture de prune. Quand la tante la laisse cuire longtemps en été dans la bassine de cuivre, il sent cette confiture à ce moment précis. Et pas quand on l'étale sur des tartines au goûter en hiver. Même le père en mange et fait des compliments à la tante qui ne lui répond rien et le regarde comme si elle le voyait pour la première fois. Amélie sent la rivière, au printemps, la rivière haute des neiges fondues. Paul sent le vent et la lame froide des couteaux qui sont dans la cuisine et qu'ils n'ont pas le droit de toucher. Pour sa mère, il hésite, et ça change tout le temps. La neige, quand elle devient bleue le soir au bord du bois, le café chaud. Elle sent rouge aussi, certaines fois. Pour le père, la soupe de légumes peut-être, mais il ne trouve pas vraiment. Il s'arrête. Ça se fige à l'intérieur de lui, et il préfère ne pas insister. Les odeurs sont un jeu, et on ne peut pas jouer avec le père. La petite chambre de Georges, entre celle des parents et la leur, sent le chaud blanc des fers à repasser, que sa mère ou Amélie font glisser sur les linges en pliant le bras et en écartant le coude. Bras et coude droit pour sa mère, gauche pour Amélie, qui est pourtant la plus habile. La grande toilette du samedi soir, avec les serviettes tièdes et douces, et la mère et la tante penchées sur lui, sur eux. La grande toilette sans rose. Antoinette et Amélie ne s'occupent pas de cette toilette du samedi. La tante dit, en détachant bien chaque mot, « On ne mélange pas les torchons et les serviettes. » Ou « Qui va à la chasse perd sa place. » Ou « Qui d'ordine ?» Ou « Qui sème le vent récolte la tempête ?» Ou « Les chiens ne font pas des chats. » Il sait par cœur toutes les phrases de la tante, surtout celles qu'il ne comprend pas, et les récite parfois, en silence, mot à mot, pour s'endormir ou pour se calmer, pour se refroidir, comme maintenant, quand il sent qu'il voudrait sauter d'un seul bond les 6 marches de l'escalier et se poser dans la cuisine sur l'épaule d'Antoinette, comme une hirondelle. La tante dit aussi, « Une hirondelle ne fait pas le printemps. » Pour prendre patience jusqu'à ce que le carillon de la salle à manger sonne la demie, il s'applique à penser aux fraises, celles qu'Antoinette aura cueillies pour lui à Hambord, les premières, et celles du jardin de la tante. Il sait que sa mère, sa tante et Amélie sont dans la cuisine et s'affairent pour la lessive. Ça commence aujourd'hui et ça durera 2 jours entiers. Antoinette viendra aussi. Elle revient pour les gros travaux. Elle est sans doute déjà arrivée. Elle lui a promis les premières fraises et Antoinette tient toujours ses promesses. Elle ne vit plus à Chanterelle, mais à Hambord. Il a bien retenu le nom. dans un autre pays beaucoup plus doux où poussent de grands cerisiers. Elle le raconte et montre avec ses deux bras comment les cerisiers s'arrondissent dans les vergers de ce nouveau pays où elle habite avec son mari. Il a beaucoup pleuré quand elle est partie avec ce mari, qui est frisé, même si sa mère et la tante Marguerite lui ont expliqué que c'était normal, que les jeunes filles comme Antoinette, quand elles trouvent un mari, quittent les enfants dont elles s'occupent dans les maisons des autres pour suivre leur mari et habiter avec lui dans leur propre maison où elles auront des enfants à elles. La tante Marguerite a penché la tête en disant ces mots, et il a compris qu'il ne fallait pas poser davantage de questions. Il sait que la tante Marguerite n'a ni mari, ni maison, ni enfant, et il sent que la tristesse traverse sa peau et lui donne une odeur particulière que n'ont pas sa mère, Antoinette ou Amélie. C'est un parfum gris et froid qui lui serre le ventre. Il pourrait pleurer, mais il ne pleure pas. Il ne faut pas le faire. On se moquerait. Il sort de la chambre. La fenêtre au bout du couloir est pleine de lumière, comme le grand vitrail de l'église quand il fait beau. Le soleil se lève de ce côté et on ne ferme jamais les volets de cette fenêtre, même l'hiver. Il est seul dans le couloir. Tout le monde est en bas, dans la cuisine. Et son père est parti à la mairie. Le jeudi matin, son père va très tôt à la mairie. Il était encore dans son lit quand il l'a entendu fermer la porte et traverser la place. À l'oreille et les yeux fermés, parce qu'il écoute mieux les yeux fermés. Il reconnaît le pas et les façons de faire de chacun, sa mère, sa tante, son père, Paul, Georges, Amélie, et même d'autres personnes comme Solange ou Antonin qui viennent pour aider et n'habitent pas avec eux. Il reconnaît aussi les aboiements de chaque chien du bourg. C'est un jeu et un secret. Paul ne doit pas savoir. Armand s'avance. Il marche dans la lumière tiède. Il la sent sur lui, sur ses pieds, sur ses mains, son visage, ses cheveux. Il ferme les yeux. Plus tard, bientôt, quand il sera assez grand, il sera enfant de cœur. Sa mère et sa tante le voudront. Son père ne pourra pas l'empêcher. Il a entendu Antoinette le dire à Amélie, même si elles ont changé de sujet quand il est entré dans la cuisine. Antoinette et Amélie craignent le père. Tout le monde le craint, même Paul. Les colères du père sont comme l'orage et le tonnerre. La maison tremble, la terre tremble. C'est la nuit en plein jour. Quand ça s'arrête, quand le père s'en va, on recommence à respirer. En attendant, on peut réciter à l'intérieur de soi la prière que leur mère dit le soir dans la chambre pour Paul et lui. Georges ne comprend pas, il est encore trop petit. Armand a essayé pendant la dernière colère, mais ça n'a pas marché. Il sait pourquoi. La prière commence par notre Père, et les mots se coincent dans sa gorge. Ça ne passe pas. Il faudrait pouvoir en parler à Antoinette aujourd'hui, ou demain. Ensuite, elle repartira, dès que la lessive sera finie, et il ne sait pas quand elle reviendra. Antoinette a des idées, des solutions pour tout. Elle sait des tours de magie. Il aime ses bras, ses cheveux, son cou. Il aime entrer à la volée avec elle dans l'église vide les après-midi de beau temps, juste pour aller faire une génuflexion et le signe de croix dans les flaques de lumière jaune et rouge qui tombent du grand vitrail. Il s'assoit aussi une minute dans le confessionnal, chacun de son côté, elle à droite, lui à gauche. Le bois est lustré et doux. Le confessionnal sent la cire, le miel, le beurre frais. Il aime l'église. Il sera enfant de cœur. Il aime Antoinette. Il entend sa voix qui monte de la cuisine, mêlée à celle de sa mère. La tante et Amélie ne disent rien. Il se tient debout sur la première marche de l'escalier. Il attend. Il sait que sa mère et sa tante sont levées depuis longtemps déjà et ont mis l'eau à chauffer sur le grand fourneau dans deux faitous très hauts qui ne servent que pour les lessives. Le reste du temps, ils sont rangés sur l'étagère du bas, dans la buanderie. Et ils aiment, Georges et lui, jouer avec le plus profond, qui est assez grand pour que Georges s'y glisse entièrement, comme dans une sorte d'étui dur. Il disparaît à l'intérieur et se balance d'avant en arrière ou de droite à gauche, en imitant les poules quand elles ont pondu. Le faitou a l'air de danser en gloussant, et il rit sans pouvoir s'arrêter. Ils le font en cachette. Quand les adultes ne s'occupent pas d'eux, ils seraient grondés parce qu'il ne faut pas abîmer les ustensiles. Paul trouve que c'est un jeu de petits et se moque d'eux, mais ne les dénonce pas. Armand descend deux marches et s'assied sur la troisième, d'où il peut voir, sans être vu, ce qui se passe dans la cuisine. Antoinette est là,